Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Québec solidaire réclame une enquête au ministre du Travail, Jean Boulet, à propos des conditions de travail des employés d'entrepôts d'Amazon ici au Québec. Ça fait suite à des dénonciations d'employés. Le député d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, a envoyé une lettre directement au ministre Boulet et demande à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, la CNESST, d'enquêter également. Alexandre Leduc est député solidaire, il est au bout du fil. Bonjour, M. Leduc.
Bonjour, M. Lagacé.
D'abord, peut-être nous résumer les griefs, les doléances des employés.
Mon Dieu, il y en a plusieurs. Amazon, c'est une entreprise américaine qui est internationale, qui peut-être se sent au-dessus des lois. Mais les lois du Québec en matière de santé et sécurité sont très claires. Quand on a un accident de travail, là, il faut le déclarer à la CNSST parce que ça peut nous causer des problèmes plus tard si on a une récidive ou une aggravation de son accident de travail. Mais malheureusement, Amazon a un espèce de système santé maison là, qui s'appelle AmCare, qui fait en sorte que quand on se blesse au travail, ben il nous invite à aller voir plutôt l'infirmière maison qui va nous donner deux petites aspirines, puis chop-chop, on retourne sur la ligne de montage. Ou si on est vraiment malade, ben tu peux prendre deux semaines à tes frais chez vous. Et après ça, tu reviens. Mais ils font tout pour éviter d'aller déclarer son accident à la CNSST. Parce que qu'est-ce qui arrive quand une entreprise qui fait pas de la bonne prévention de santé et sécurité au travail puis qu'il y a plusieurs accidents, ben le système fait en sorte que sa cotisation va augmenter un petit peu. Alors, vous comprendrez qu'ils veulent à tout prix éviter. Fait que quand les gens se blessent, ben ils vont faire l'inspection maison puis ils vont pas faire la déclaration. Ça peut leur causer des problèmes plus tard. Puis quand il y en a, ils finalement se font dire par des connaissances, par des sortes de canal de communication, qu'il faut qu'ils aillent faire leur déclaration à la CNSST, ben il y a bien des chances qu'ils ne retournent pas à job la semaine d'après.
Quand vous dites bien des chances, il y a des cas documentés de gens congédiés qui travaillent pour Amazon au Québec qui ont dénoncé des accidents de travail?
Tout à fait. Moi, j'ai parlé à des gens qui sont en train d'essayer de monter un syndicat dans place, là. C'est des choses qui sont alléguées, en plus de toutes sortes d'autres pressions qui sont mises sur des gens qui pourraient vouloir faire des campagnes de syndicalisation, s'afficher dans l'entreprise. C'est illégal au Québec de faire des réprimandes pour des gens qui veulent se syndiquer. Malheureusement, l'entreprise fait tout pour éviter un mouvement de syndicalisation. Il y en avait déjà un entrepôt qui était syndiqué dans l'État de New York là, il y a une couple de mois, un an à peu près. Ils veulent à tout prix éviter que ça s'enflamme au Québec dans la même logique.
OK, donc d'une part, on a des doléances là, sur la gestion des accidents de travail. On a aussi on se plaint d'un climat antisyndical. Est-ce que les salariés d'Amazon au Québec dénoncent autre chose?
Ben, tu sais, moi, l'aspect syndical, je laisse les membres, les travailleurs, travailleuses d'Amazon décider de l'avenir de leur syndicat. Moi, je suis un syndicaliste à la base. Fait que vous comprendrez quel coche je cadrerais si on m'offrait la question, mais je leur laisse choisir, bien sûr, c'est leur droit. Moi, mon implication comme élu est vraiment sur l'aspect santé et sécurité. Parce qu'on soit syndiqué ou pas, là, on a accès à la santé et sécurité au Québec. Il y a un an et demi, on a fait une immense réforme. Il y avait plein de défauts dans cette réforme-là, mais il y a quand même des aspects positifs sur le projet de loi 59, la réforme de la santé et sécurité au Québec, qui donnait accès à des représentants élus de santé et sécurité partout au Québec, qu'on soit syndiqué ou pas. À ma connaissance, Amazon soit a pas fait la job carrément ou d'autres informations me disent qu'il y a quelqu'un qui est nommé, mais pas élu par les membres, qui est un peu identifié par le patron, qui fait pas vraiment la job finalement sur le plancher de prévention. Et ça met à risque les personnes dans les différents entrepôts. Puis là, on a assez entendu de cas documentés, soit par des témoignages qui sont rendus publics dans différents articles de journaux, soit par des témoignages que moi j'ai entendus à travers mes discussions avec le syndicat, du moins avec la gang qui veulent partir de syndicat, que je me dis, ben là, il faudrait peut-être que le ministre s'en mêle, qu'il demande à la CNSST de faire une véritable enquête, puis qu'on fasse le ménage. Parce qu'il faut que le message soit très clair, qu'une entreprise, elle soit basée aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, les lois du Québec, il faut les respecter.
Les lois du Québec, il faut les respecter. Mais j'ai souvent entendu, M. Leduc, qu'un accident de travail, ça coûte cher à un employeur. Puis il peut y avoir des incitatifs à, disons, le maquiller, le cacher, parce que dès qu'il y a un accident, dès qu'il y a une compensation, ben les primes d'assurance augmentent. Est-ce que ça, c'est vrai?
C'est-à-dire que la CNSST, pour payer les personnes qui se blessent, les indemnisations, c'est fait à partir d'une cotisation des employeurs. Tout le monde qui est employeur au Québec doit cotiser un certain montant à la CNSST. C'est un système qui a été créé à une certaine époque pour récompenser les gens qui faisaient de la bonne prévention et qui avaient donc moins d'accidents de travail. C'est pour ça que malheureusement, l'effet insidieux parfois, c'est qu'il y a des entreprises qui décident de systématiquement contester tous les réclamations de leurs salariés en disant « ben non, je veux pas que ma cotisation monte ». Un bon employeur, un bon citoyen corporatif fait pas ça. Un bon employeur va investir en prévention puis va s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident dans son milieu de travail. On se rappelle des fois des usines qui mettent le nombre de chiffres, le nombre de jours là, qu'il y a eu sans accident de travail, c'est la bonne culture à développer. C'est sûr que quand il y a un syndicat en place, souvent ça aide à développer aussi une culture de prévention auprès des travailleurs travailleuses. Mais on n'a pas affaire à Amazon en ce moment à un citoyen corporatif modèle, là, bien au contraire.
OK. Jean Boulay, le ministre du Travail, quelle a été sa réponse?
Bien, je l'ai croisé au Salon Bleu ce matin, là, avant la période des questions. Il avait bien reçu ma lettre. Il m'a dit qu'il prenait ça très au sérieux, qu'il était inquiet lui aussi. Qu'elle allait voir ça, là, il allait peut-être me répondre dans les prochains jours.
OK, je vous amène sur un autre terrain, celui qui a dominé l'actualité politique toute la semaine. Ça s'est calmé un peu aujourd'hui, c'est la nomination de Mme El Gawabi. Pourquoi Québec solidaire s'est abstenu d'une motion qui la condamnait hier? Pourquoi les députés solidaires n'ont pas voté?
C'est-à-dire que l'abstention, c'est une forme de vote, c'est une forme de message qu'on envoie. Dans la motion, il y avait des éléments avec lesquels on était d'accord, hein, le fait de condamner... les propos qui avaient été tenus par Mme El Gawabi, le bout qu'on a voulu modifier, on a proposé un amendement, ça a été retiré, ça a été battu par la CAQ là, au moment de la mettre au vote. C'était la motion, l'aspect de la renvoyer. Nous, on voulait pas fonctionner de cette manière-là. On n'est pas en train de vouloir l'absurde non plus. Vous le savez, on lui a demandé de la rencontrer elle aussi, un peu dans une démarche similaire que celle de nos collègues du Bloc québécois, en se disant un peu, là, vous vous rappelez sûrement de M. Landry qui disait « Audi alteram partem », là, il faut entendre l'autre partie avant de la juger, finalement. Et nous, on pense que c'est une rencontre qui doit avoir lieu. On a déjà fait des communications avec son bureau. À ma connaissance, la date n'est pas encore fixée, mais ça devrait avoir lieu la semaine prochaine. Et c'est à la suite de cette rencontre-là où on aura entendu l'autre partie qu'on se gouvernera, qu'on décidera si oui ou non elle peut, selon nous, rester en fonction.
Écoutez, si la mémoire me sert bien, la personne que défendait M. Landry n'avait pas été entendue, mais c'est pas le cas de Mme El Gawabi. C'est-à-dire, ce sur quoi vous étiez appelé à vous prononcer, c'est des paroles qu'elle a prononcées, qu'elle a écrites elle-même. Je vois pas qu'est-ce que ça aurait changé si vous l'aviez rencontrée à Québec solidaire.
C'est-à-dire que la démarche qu'on propose, c'est de l'entendre, parce qu'il y a des propos qui ont été dits. Après ça, au moment où la motion avait été faite, les excuses n'avaient pas été entendues. Le Bloc québécois avait la même attitude. Hein. Il disait, ben nous, on ne prononcera pas sur son renvoi avant de l'avoir rencontré. Alors, on est vraiment dans la même logique, dans la même démarche. Nous, on pense que cette personne-là, on doit l'entendre. Elle a un passé militant, mais après ça, elle a des nouvelles fonctions. Est-ce que elle peut revenir sur les moments où elle a été trop loin, où elle a tenu des propos qui étaient certainement exagérés et condamnables. Après ça, une fois qu'on l'aura rencontrée, on aura l'occasion de se gouverner, de voir si on pense que oui ou non, elle peut rester en fonction.
Puis vous allez la rencontrer quand?
Bien, comme je vous disais, là, à ma connaissance, c'est au début de la semaine prochaine. Je n'ai pas la date exacte. C'est mon collègue Andrés et Manon, je pense, qui vont avoir cette rencontre-là avec elle. Les derniers détails de la rencontre étaient supposés être réglés là, aujourd'hui ou demain, je pense.
Merci, M. Leduc.
C'est moi qui vous remercie. Passez une belle journée.
C'était Alexandre Leduc, député solidaire d'Hochelaga-Maisonneuve.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
De retour en studio pour la suite et la fin de cette conversation avec l'astronaute David Saint-Jacques. David, le programme Apollo, le programme Mercury, là, toute l'aventure spatiale américaine des années 60, les astronautes, ils étaient tous sur le même modèle. Des pilotes de l'armée américaine, souvent des pilotes d'essai, et ils étaient blancs et c'était des hommes. Là, pour la mission Artemis, on est complètement ailleurs en termes de diversité et la NASA ne s'en cache pas. Voir des gens de couleur, voir des femmes, il me semble qu'il y a comme une valeur de symbole là-dedans.
Ah ben, je pense qu'il y a une... on en parle beaucoup de ça dans les médias, mais honnêtement, dans le programme spatial, c'est comme si on est rendu au-delà de ça. Le bureau des astronautes en ce moment, c'est tellement diversifié dans toutes les directions. Pas qu'on n'y pense plus, mais c'est tellement physiquement diversifié. Il y a des gens de tous les backgrounds que c'est juste la compétence qui compte, en fait. Et il y a l'important, ça a été les phares de la dernière décennie d'attirer les candidatures. Pour s'assurer d'avoir des bons candidats de tous de différents milieux, différents backgrounds. Et maintenant, on l'a. Je pense pas qu'il y aura d'efforts spécifiques pour, mais ça va juste arriver organiquement, juste parce qu'il y a une telle diversité maintenant au bureau. L'autre fois, on avait une réunion là, d'équipe, on discutait, on était 5 à table. Ben, j'étais le seul gars blanc de 50 ans. T'sais.
À l'image de la société.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est.
OK. Le Canada a annoncé récemment là, qu'on allait créer un cadre pour pouvoir lancer des objets dans l'espace. Ça ne se fait pas du Canada. Et j'ai lu des déclarations de plein d'officiels, dont toi, qui disaient lors de cette conférence de presse-là, le Canada est uniquement positionné pour lancer des objets dans l'espace. Pourquoi?
Oui, alors je vais faire un petit cours de physique, de mécanique orbitale. Okay? Alors, la Terre tourne très vite sur elle-même, sur son axe, OK? Fait que quand tu lances une fusée, mettons, à partir de l'équateur, idéalement, t'as comme 2-3 000 km/h gratuits de vitesse orbitale.
À cause de la rotation de la Terre.
Oui, à cause de la rotation. C'est comme le spin capitaine, une lance. Bon. Fait que pour lancer des satellites les plus faciles à imaginer, tu sais, les satellites qui tournent autour de l'équateur, il y en a qui sont tellement loin, ils ont les envoyés à la bonne place, ils sont à la même vitesse, la Terre tourne, ils tournent à la même vitesse que la Terre en dessous d'eux. Ça, c'est les meilleurs satellites de communication. C'est comme un point qui est fixe dans le ciel par rapport à un endroit sur Terre. Oui. C'est ce qu'on appelle l'orbite géostationnaire. La plupart des bons satellites de communication sont comme ça. C'est comme une antenne extrêmement haute. Il y a d'autres satellites sur d'autres différentes orbites, mais tous un peu autour de l'axe du plan de l'équateur. Ça, c'est des bons satellites de communication. Ils reviennent à chaque jour. Et puis, si on en a plusieurs, on peut avoir une couverture constante pour une certaine latitude. Un autre genre d'orbite, c'est des orbites qui orbitent d'un pôle à l'autre, à 90 degrés, du nord au sud. Ces satellites-là qui sont sur une orbite donc, qu'on appelle le circumpolaire, eux, ils font une boucle du nord au sud et pendant que la Terre tourne en dessous. Donc, c'est comme un scanner. À chaque orbite, ils voient une autre partie de la Terre.
On en voit plus.
Ça, c'est surtout des satellites d'observation. Les satellites pour faire Google Maps, par exemple, c'est des satellites comme ça qui sont sur des orbites polaires. Parce qu'en 24 heures, ils ont pu voir la Terre au complet, en gros. Alors ça, il y a un grand désir pour des orbites comme ça. Alors le problème technique, c'est que pour lancer une fusée de manière sécuritaire, il faut qu'on la lance dans une direction où il n'y a comme rien en avant sur Terre pour la sécurité civile. Fait que quand on lance, par exemple, à partir de la Floride, le fameux Cap Canaveral, c'est bien, il y a tout l'Atlantique d'un côté. On prévient les bateaux et les avions.
Donc, pas de débris qui vont tomber sur la tête de quelqu'un.
Au pire, ça tombe dans l'eau. Voilà. Fait que ça, c'est pour les lancements de satellites de communication. Si tu veux lancer un satellite d'observation de la Terre sur une orbite d'un pôle à l'autre, il faut que tu le lances de haut en bas, si on veut, sur la Terre, du nord au sud. Alors, au Canada, on peut lancer des satellites à partir de la Nouvelle-Écosse, par exemple, en visant vers le sud. Il y en a des milliers de kilomètres d'océan en avant de nous.
Sans danger.
En plus, vu qu'on est assez loin au nord, il n'y a pas beaucoup de rotation de la Terre à enlever, entre guillemets, quand on lance le satellite.
Parce qu'on est près des pôles.
On est près des pôles. Donc, c'est vraiment géographiquement uniquement situé. C'est un pays développé. C'est intéressant pour les compagnies de venir s'installer là. Sauf qu'on n'avait pas vraiment de cadre légal pour l'encadrer, pour rendre ça un peu rassurant pour les investisseurs. Et c'est ça qu'on fait maintenant. On génère un cadre légal, point de vue environnemental, point de vue sécurité des avions, sécurité des bateaux, les radiofréquences, tout ça, pour que ce soit un endroit accueillant pour les compagnies d'investir. Puis je pense qu'il y a vraiment un bon avenir pour les lancements à partir du Canada.
David, il y a des lancements d'objets qui transportent des humains à titre privé. Souvent, ce sont des gens très, très fortunés. Quand on envoie un satellite, ça va servir potentiellement à tout le monde. quand ce sont des lancements privés comme ça, ça sert quelques personnes hyper privilégiées. Penses-tu que le jeu en vaut la chandelle?
Alors, je t'invite à essayer de regarder ça d'une autre manière. Chaque lancement de fusée, c'est un prototype. Chaque lancement de fusée fait augmenter nos connaissances de cette technologie-là. Chaque lancement de fusée permet à l'humanité de devenir de plus en plus, de façon de plus en plus sécuritaire. Lorsque un lancement est fait de manière privée pour des gens qui payent ça eux-mêmes, c'est un peu comme s'ils subventionnaient la recherche et le développement en aérospatial. Fait que ça, je trouve que c'est une raison de... je trouve ça très bienvenu, que leur passion fait que c'est là qu'ils mettent leurs ressources. L'autre aspect, c'est que les gens qui sont capables de se payer un voyage comme ça, ben, c'est des gens d'habitude qui ont de l'influence sur la société. Et pour revenir au début, au sujet initial, de Overview Effect, là,
oui.
Que des gens avec autant d'influence sur la société voient la Terre vue de l'espace, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'on n'oublie pas ça. À la limite, je te dirais, j'aimerais ça qu'un jour, on puisse faire le sommet G20 là, mm-hmm. en orbite, parce que ça changerait l'atmosphère des discussions.
Ça changerait la perspective.
Exactement. C'est une question de perspective nouvelle, globale, et je pense que ça assagit l'être humain de se rappeler à quel point on est exposé au milieu de l'univers, puis on est figurativement et littéralement tous dans le même bateau.
Intéressant point de vue. Merci beaucoup, David Saint-Jacques. Toujours un plaisir.
Merci, Patrick.
L'astronaute canadien David Saint-Jacques. On est en février 2023. Dans quelques jours, on va souligner le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et il y a un an, on n'aurait pas pu penser voir cette scène qui s'est déroulée hier à l'aéroport de Montréal. Un club de hockey, Pee-Wee, s'est présenté pour jouer au célèbre tournoi international de hockey de Québec. Hugo Meunier, notre ami, était à l'aéroport Montréal-Trudeau pour les accueillir. Salut, Hugo.
Salut.
Dans quel état ils étaient?
Fatigué, heureux, fébrile, mais tu sais, surtout fatigué. C'était un très, très long voyage au sens physique et métaphorique parce que cette équipe-là était un peu éparpillée partout. Il y avait des joueurs qui étaient en Ukraine dans des zones sensibles et il y avait plusieurs, en fait, le trois quarts des joueurs sont des réfugiés qui étaient, ils se sont tous donné rendez-vous récemment à Bucarest, en Roumanie, mais qui ont dû fuir l'Ukraine avec leur mère dans ces cas-ci bien précis parce que leurs pères sont restés derrière pour être au front carrément au combat. Et il y avait quatre de ces jeunes-là. C'est toute une mission de sauvetage, ça, que je vous invite à aller lire sous la plume de Kevin Dubé dans le Journal de Montréal, qui raconte avec beaucoup de détails cette opération-là d'aller chercher les quatre jeunes qui étaient en Ukraine. Puis c'était pas facile. Il fallait passer par la Moldavie, se rendre à la frontière. Il y avait pas le droit d'y aller avec une voiture de location. Donc, il fallait se trouver une espèce de passeur qui a accepté d'aller les chercher. Ils ont fait un bout de chemin à pied. Tu sais, c'est quand même des petits culs de 11-12 ans qui s'en venaient avec leur poche d'hockey de l'autre bord avec leur mère, avec des adieux déchirants. Et là, on part un peu, c'est un saut dans le vide. On part avec deux bonhommes, dont un monsieur qui s'appelle Sean Bérubé. Je sais pas si c'est Sean ou Sean, là. Je l'ai appelé Sean hier toute la journée. Mais bon, lui, c'est un porte-parole et un responsable du tournoi Pee-Wee qui a fait le chemin, qui parle russe. Écoute, l'histoire est assez abracadabrante parce que lui, il avait déjà été joué en Ukraine quand il était jeune. Ce monsieur-là qui est un des bénévoles du tournoi et donc est retourné là-bas avec la mission de ramener l'équipe ukrainienne qui sont déjà venus. C'est pas la première fois que l'Ukraine participe.
Qui paie pour ça? J'imagine que c'est le tournoi?
Ben, en fait, il y a une centaine d'équipes dans le monde qui participent à ça. Tout le monde s'organise à payer leurs frais,
il n'y a pas d'organisation.
Mettons que l'équipe ukrainienne, on lui fait une petite passe à la palette,
oui,
sans mauvais jeu de mots.
J'imagine là, que les jeunes Ukrainiens ne jouent pas au hockey depuis un an.
Non, c'est tranquille.
On les invite à titre symbolique. Là.
Voilà, et titre symbolique, ça suscite aussi un engouement médiatique. Je pense pas que les gens de l'organisation l'ont fait pour ça, mais de toute évidence, ça passe pas inaperçu. Il y a une cinquantaine d'accréditations, dont le New York Times. Ça va être quelque chose, là, cette année au tournoi Pee-Wee. Peut-être que le carnaval a un peu choqué à cause du froid, mais le tournoi Pee-Wee va y aller à fond les ballons.
Écoute, hier, tu as pu parler aux jeunes.
Ouais.
Avec un interprète, là, puis j'imagine qu'ils parlent pas...
Ben, quelques, anglais, ils parlaient anglais. Okay. La plupart baragouinaient un pas pire anglais, pas mal comme le mien, en fait. Ouais. Puis il y en a même un qui me parlait, qui m'a dit « Bonjour Canada » en français. Je ne sais pas d'où il a pris ça, mais j'imagine qu'il... Mais bon, sinon, la plupart parlaient un pas pire anglais. C'est des athlètes. Ils ont beau avoir 11-12 ans, c'est les meilleurs de leur pays. C'est un peu ça le tournoi Pee-wee. Ouais, ouais. Et le gars de Hockey Québec qui était du tournoi de Pee-wee, qui était là-bas, qui les a vus jouer un peu à Bucarest avant de revenir, ben il a dit, préparez-vous à être impressionné, parce que les Ukrainiens ont jamais fait flèche de tout bois dans ce tournoi-là depuis, oui, oui, historiquement, mais il comparait un peu le talent de cette QV-là à celle de 92. Nous, ça nous dit rien, mais apparemment, en 92, l'équipe ukrainienne, c'était leur baptême du tournoi et ont tout raflé, ont été l'équipe Cendrillon. Et là, il disait, on est dans ce niveau-là. Là. Puis en plus, peut-être, bon là, c'est de la philosophie un peu, mais peut-être qu'ils ont le goût aussi de changer les idées, ces jeunes-là, puis de se défoncer sa patinoire. Ils ont peut-être des bonnes raisons. Il y a un joueur qui aurait perdu son père. Il y en a plusieurs qui ont leur père sont sur la ligne de front. D'ailleurs, à l'aéroport, j'ai croisé un documentariste qui les a suivis, qui les a vus là-bas et qui m'a montré sur son téléphone des images c'était à peu près 5 paires de ces joueurs-là en tenue de camouflage. Je pense qu'il était à Kherson ou à Donbass, mais vraiment sur la ligne de feu. Puis là, tu voyais ces papas-là souhaiter bonne chance, bon tournoi à leurs jeunes. C'est quand même assez émouvant.
Est-ce qu'on pouvait déjà sentir l'émotion? Parce qu'on va la sentir au Colisée là, dans les matchs. Mais est-ce que déjà,
honnêtement,
t'as pogné quelque chose, comme on dit?
Je suis pas le plus émotif, mais tu sais, en tant que propriétaire d'enfants d'à peu près cet âge-là, je me disais, c'est quelque chose pareil, parce que les autres, premièrement, voyagent seuls avec l'entraîneur. Genre, je prête aucune mauvaise intention à tous ces adultes-là, mais tu quittes un pays où ça va pas bien et les jeunes, tu sais, je peux pas dire que j'ai arraché de grandes entrevues, là, à part sont excités, tout ça, c'était rudimentaire, mais le coach disait, on essaie de focus au hockey, mais c'est sûr qu'eux autres, ils ont la tête ailleurs. C'est une équipe qui a pas la tête au hockey à 100%.
Mais le monsieur du tournoi Pee-wee de Québec, là,
Sean Bérubé,
c'est pas banal. Il est allé jouer à dos en Ukraine et la famille chez qui il habitait, il les héberge maintenant comme réfugiés.
Qui était à l'aéroport hier, puis c'était de toute beauté. Là. Je sais pas s'il va être content d'entendre que je parle de ça, mais le monsieur est rendu assez âgé où il vivait, puis il vit avec... Donc maintenant, c'est lui qui l'héberge. Là, il mettait des gouttes dans les yeux, il y a un peu des ennuis de santé, puis il parlait russe avec. C'était quand même assez très impressionnant, ce Sean Bérubé, espèce de héros bénévole de l'ombre. Là. Mais ça va être quelque chose, ce tournoi-là. Et il me disait, préparez-vous à des surprises. Tu sais, le premier match de cette équipe ukrainienne-là, c'est le 11 contre les petits joueurs de l'équipe de Boston. Et apparemment, il va avoir quelques surprises et il s'attend à une salle pleine pour ce premier match-là.
Puis il paraît que ça n'a pas été très, très difficile de trouver des familles d'hébergement pour les jeunes à Québec.
Ça a été le contraire. Il y en a 9 parce que 2 sont jumelés à 2 par chambre, par maison. Et ils en ont trouvé 9 en temps de le dire. Et je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui voulait faire leur part.
Je pense qu'on a un scénario pour Pee-wee 3D 3.
Ça c'est clair. Et là, il y a j'ai entendu des parents qui hébergent, une des familles qui hébergent, qui disaient qu'ils vont leur faire goûter évidemment le classique de la poutine, sans nommer le nom du mets par respect.
Ah mon Dieu,
C'est vrai. On a une belle sensibilité.
Ça doit être une drôle de conversation à avoir avec des jeunes ukrainiens qui débarquent ici. Écoute, le mets national s'appelle poutine.
Ouais, c'est ça.
Mais il y a pas de lien.
Il va falloir qu'ils leur disent.
Ben quoi que le fait de le manger symboliquement, c'est peut-être pas pire.
Exactement. t'en es à tes derniers reportages à Urbania, là, parce que tu t'en vas faire un voyage en Amérique du Sud.
Oui.
Tu pars quand et combien de temps?
Je pars le 22 février et 6 mois. Là, je devais aller au Pérou, mais le Pérou est à feu et à sang. Fait que je suis en train de regarder pour aller en Colombie, qui est l'espèce de nouveau Portugal de 2023.
On plus dangereux comme ça l'était avant?
Ben, apparemment, les FARC ne kidnappent plus. Fait que donc, et en même temps,
c'est au loin de la jungle. Hein?
Toujours bon pour attirer l'attention.
Ça ferait un bon reportage dans ton cas.
Je pense tout le temps à ça.
C'est un autre voyage en famille. Vas-tu continuer à collaborer avec Urbania?
Oui, je vais envoyer des articles pour Urbania et c'est un 6 mois. Puis un autre projet de cabochon. En revenant, on verra ce que je vais
faire. Tous les karaokés de Montréal seront tristes.
Ils vont perdre l'argent, ça, c'est sûr.
OK.
D'un coup, tu reviens, ils ont tous fait faillir.
je veux revenir. Là, la poussière est retombée un peu sur ton reportage, sur ton documentaire.
Je pensais que tu me parlais du latte à la citrouille. J'ai eu peur pendant.
Péter la balloune sur l'alcool.
Oui.
Et tout de suite, dans des semaines qui ont suivi, il y a un rapport qui est sorti qui indiquait, là, sur la foi de plusieurs études scientifiques, regardez, plus vous buvez, plus vous avez de chances d'avoir des maladies qui sont graves. Toi, ça n'avait pas été une surprise pour toi ce qui était sorti dans ce rapport-là.
On le voyait venir, on le savait. Pas qu'on l'avait... ils nous ont rien laissé couler, mais tout avec les nouvelles études qu'il y avait qui reliaient l'alcool au cancer, à la santé mentale, on savait que ça s'en venait. Et moi, j'ai vraiment hâte qu'on sorte d'une logique de nombre. Parce que quand les recommandations sont sorties, on a beaucoup parlé, bon là, c'est plus 10 à 15 consommations par semaine, c'est rendu 2 ou 3. Pour moi, ça, c'est un peu futile. T'sais, le message là à comprendre, c'est l'alcool, c'est pas bon pour ta santé. Fumer, c'est pas bon pour ta santé. À partir de là, fais tes choix de manière éclairée. C'est ça que les gens devraient retenir. L'alcool, c'est pas une question du nombre de consommations que tu vas prendre qui est bon ou pas bon. C'est pas bon boire pour ta santé. Si tu veux être en santé, va au gym puis bois du kombucha. Mais c'est quand même un bon premier pas, je trouve, parce que ça dit ce que ça dit. L'alcool, c'est y a pas de quantité qui est bonne pour la santé.
Il y a eu quand même un effet de boomerang quand l'étude est sortie. Ok. Ouais. C'est assez incroyable comment il y a des gens qui ont réagi de façon viscérale. C'est comme s'ils avaient été insultés personnellement. Toi qui as plongé là, oui, dans notre relation avec l'alcool, qu'est-ce que ça te dit, cette réaction-là?
Ben, c'est qu'on n'aime pas ça un peu, se faire une introspection et se regarder dans le miroir. D'ailleurs, même faites l'exercice autour de demander aux gens combien ils boivent de consommation par semaine. Tout le monde ment ou revoit ça à la baisse. Bon, il n'y a pas de problème, 3-4 verres, mais tout le monde boit plus que ça. On n'aime pas ça parce que... Puis je comprends les gens, c'est comme laissez-nous tranquille. On nous régimente dans à peu près toutes les portions de notre vie. Donc, pouvez-vous nous laisser boire notre petit verre de vin rouge le soir en paix? C'est à peu près ça que j'entendais comme
poste. J'ai écrit là-dessus sur cette étude-là. Puis au début, quand les réactions sont mises à rentrer, c'est pas que les gens étaient choqués contre moi, étaient choqués contre ça. Puis ça m'a pris un peu de temps avant de justement comprendre ce que tu viens d'énoncer là, Hugo. C'est-à-dire que les gens se sentent régimentés dans tous les pans de leur vie. Là, quand ils sont seuls chez eux puis qu'ils boivent leur verre, ils se font dire que ça aussi, c'est pas correct. Je pense que c'est l'accumulation qui était fatigante.
Probablement.
Fait que tu pars quand?
Je pars le 22. Et voilà, je sais même pas si j'ai hâte. C'est comme trop de choses à préparer avant. Moi, je suis quelqu'un qui va comprendre tout ça quand je vais être assis dans l'avion. Et mon garçon de 14 ans, tu sais, est un peu insupportable. Donc, j'ai hâte de voir si on va bien s'entendre pendant 6 mois.
Oui, parce que t'as fait un voyage en Asie comme ça. Oui. Les enfants étaient plus jeunes, donc un petit peu plus malléable.
Plus malléable. Et là, ça va être... Je pense que le grand défi de ce voyage-là, ça va pas être ça va vraiment être de bien s'entendre à quatre, mon gars de 14.
Surtout à Medellin, là, parlez pas dans le pas cru, parce que... C'est une ville.
Oui. Hein? Non, il a déjà dit que la cocaïne, c'est pas une bonne idée.
Mais pas juste la Colombie.
C'est dangereux pour la santé.
Pas juste la Colombie. Où d'autres tu vas aller?
Bon, on va faire une belle tournée. Argentine, Chili, Brésil, Uruguay, Pérou, Bolivie. Pérou, si ça se tranquillise un petit peu.
C'est assez payant de travailler pour Urbania.
C'est le premier million qui est le plus dur à faire. Après, nos intérêts.
On te souhaite un excellent voyage.
Merci bien.
On va se retrouver. Peut-être qu'on se parlera quand tu seras là-bas.
Quand vous voulez.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir une maison, qui vivent dans des refuges, qui vivent dans la rue. Et vous avez entendu M. Legault, moins 35 au réveil demain avec le vent dans la région de Montréal. Ça va plonger dès cette nuit et ça va continuer à descendre. On risque d'atteindre là moins 41 dans la prochaine journée et demie. Et on va parler de tout ça avec Serge Larrault, qui s'y connaît bien parce qu'il est commissaire aux personnes en situation d'itinérance à la ville de Montréal. M. Larrault, bonjour.
Bonjour.
Donc, comment on va prévoir le coût à la ville de Montréal?
Ben, écoutez, on prépare le coup depuis longtemps, hein, parce qu'on était chanceux. Là. On a eu un mois de janvier absolument très, très doux. Ce qu'on a travaillé au cours des derniers mois, hein, c'est d'amener le gouvernement du Québec, parce qu'il faut le comprendre. On dit toujours, la ville, qu'est-ce qu'elle fait? Là? C'est un ensemble de partenaires, c'est le réseau de la santé, c'est une trentaine d'organismes qui exploitent 31 refuges à Montréal. On a passé, avant la pandémie, on avait 900 lits. On a monté à 1600 lits. Donc, on a pratiquement doublé le nombre de lits. On pensait être prêt, mais il y a encore des gens qui sont dans la rue. Il y a encore des gens qui ont besoin d'être abrités. Et c'est pour ça qu'on a fait le premier plan d'urgence. C'est vraiment la sécurité civile. Un peu comme quand il y a une inondation, là. On met en branle notre sécurité civile. On va ouvrir deux haltes, deux centres de répit, là, des centres de nuit. Un au centre-ville, au YMCA centre-ville, et un sur le plateau Mont-Royal. Puis on va accueillir les gens, là, toute la nuit, là, pour les sécuriser.
Ça, c'est fantastique pour des gens qui peuvent se déplacer, mais sans abri, aux dernières nouvelles, n'ont pas de voiture, n'ont pas d'argent pour monter dans un taxi. Est-ce qu'il y a un système de navette pour les transporter à ces haltes chaleur, pour les transporter vers les refuges?
Absolument. Écoutez, il y a un ensemble d'actions. Là. Il y a une navette qui est financée par la ville puis qui est opérée par la mission Old Brewery, qui fait tout le tour des refuges puis des places où il y a des gens de la rue pour les amener vers les haltes chaleur. On a nos policiers qui sont en mode alerte et vigie, donc qui peuvent ramasser des personnes qui sont dans la rue, les amener. On a aussi créé, hein, puis ça, c'est notre nouvelle équipe, là, l'équipe mobile en médiation et intervention sociale, là, l'EMIS, qui patrouille toute la nuit puis qui, en voiture, amène les gens. Et évidemment, aussi, il y a de la tolérance là, pour que les gens puissent rentrer dans le métro. Donc, vraiment, là, il y a une petite armée qui va être dans les rues là, au cours des prochains jours, prochaines nuits, pour les amener vers ces refuges-là.
Le RAPSIM, le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, a accueilli positivement cette nouvelle-là, là. Mais on craint que ce soit insuffisant. Annie Savage, la directrice de l'organisme, dit que ça va se remplir très, très rapidement. S'il y a quelqu'un présentement qui est dans la rue, qui a besoin d'aide, qui veut une place, ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a personne qui va être laissé dehors.
Nous, on considère qu'on a les places suffisantes. Je vous parle de 50 places par refuge, là, mais s'ils sont 60, vous comprenez, ils vont rentrer quand même. S'il faut en ouvrir un troisième, on est capable en quelques heures d'en ouvrir un troisième. Nous, on veut s'assurer là, qu'il n'y ait personne qui soit à la porte là, dans la rue au cours des prochaines nuits. Ce que Mme Savage dit, là, c'est de dire, bon, ben, écoutez, il y a peut-être besoin à l'année longue de d'autres oui. refuges. Là, parce que ça, c'est une mesure d'urgence. C'est pas un vrai refuge avec des soins psychologiques, tout ça. Là. C'est un abri d'urgence. Et effectivement, il faut regarder parce qu'on sent que ça augmente. C'est-à-dire, nous, là, quand on travaille depuis des mois...
Vous sentez que quoi augmente?
L'itinérance augmente, la grande pauvreté augmente, les rénovictions, la crise du logement ne se résorbe pas à l'empire. Puis je vais rajouter une couche. On a des migrants, des réfugiés qui se retrouvent dans nos refuges pour sans-abri, qui semblent là, pas être pris en charge par le système d'accueil. Fait que tout ça là, fait que faut regarder mensuellement, mois après mois, là, la situation. Puis les indicateurs sont au rouge.
Ça fait combien de temps, M. Larrault, vous travaillez dans le milieu de l'itinérance?
Ça fait 30 ans, ça ne me rajeunit pas.
Mais la différence entre il y a 30 ans et aujourd'hui, c'est quoi?
Je vous dirais les coûts de la vie. Hein. Je veux dire, avant, on pouvait se retrouver dans la rue quelques mois, puis se retrouver une maison de chambre ou se retrouver un appartement pas cher. En ce moment, même les gens qui ont de l'argent ont de la misère à se trouver un logement. Donc, la crise du logement, c'est le problème numéro un. Il faut que les paliers de gouvernement supérieur appuient sur l'accélérateur. On a besoin de milliers de logements sociaux. Cette nuit, je pense qu'il y a comme 300 personnes dans les refuges qui sont prêtes à aller en logement. Là. Ils ont été stabilisés par le bon travail des refuges, mais ils ne trouvent pas de logement. Donc, le logement, mais la maladie mentale, les drogues fortes, les gens, là, je veux dire, ils revenaient eux autres, mais là, on a des gens très, très malades dans
ça, ça a toujours été le cas. Là. Je veux dire, le cocktail maladie mentale, consommation... Ça a toujours été un facteur qui a poussé des gens à la rue. Ça a toujours existé. Mais entre il y a 30 ans et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y en ait tant que ça?
Je veux pas vous contredire, là, mais quand j'ai commencé il y a 30 ans, les gens s'injectaient de la cocaïne puis de l'héroïne, là, puis ils dégrisaient à un moment donné, puis on était capable de les travailler. Là, les gens sont sur des drogues extrêmement fortes.
Ça fait une différence?
Ça fait une différence, parce qu'avant, ils pouvaient consommer 10 ans, puis on pouvait encore les réchapper. Là, 2 ans de crack, puis de toutes les drogues épouvantables qui sont sur le marché, ils ont des lésions irréversibles au cerveau. Moi, avant, j'avais un intervenant pour 20 personnes, puis on était capable de les gérer. Là, il y a des taux de violence, les gens sont vraiment vraiment toujours à deux doigts de l'overdose. Ça te prend trop deux puis trois fois plus de personnel. Fait qu'on n'est vraiment plus dans les mêmes eaux, là. Ça aussi, le Canada, faut qu'il y a des expériences qui se font à Vancouver, là. On traite plus la même clientèle.
Il y a une décriminalisation des drogues dures là-bas, là.
Il y a une décriminalisation, il y a de la médication pour remplacer les drogues. T'sais, ce que je veux vous dire, c'est que il n'y a pas juste plus de monde qu'avant. Ça prend plus d'énergie, plus de ressources spécialisées pour les aider.
Donc, des drogues plus dures qui rendent les gens, disons, encore plus inaptes et une pénurie de logements. Fait que si on a une fenêtre où on est capable de rescaper ces gens-là, on n'a peut-être pas de place où leur donner le gîte.
Ben c'est ça, exactement. Puis le gîte, c'est pas n'importe quel gîte, comme je vous dis, c'est pas n'importe quoi, là. Il faut des gîtes pour pouvoir les stabiliser. Si vous prenez la Oldbury Mission, il y a des psychiatres maintenant là, dans ces refuges-là. Là. On est ailleurs. Là.
Je vous écoute, j'ai fait plusieurs entrevues là-dessus. C'est un sujet qui m'interpelle. C'est une face très, très visible de la pauvreté puis de la détresse à Montréal. On n'y arrivera pas. Vous me dites, là, on a besoin de milliers de logements sociaux, là, M. Larrault. Vous le savez comme moi que ça n'arrivera pas, là.
Ben, écoutez, j'arrêterais de travailler si je pensais comme ça, là. Je pense qu'on est capable, en tant que société, de peser sur l'accélérateur. Faut créer des logements. On est capable d'en créer. Puis, comme je vous dis, parce que là, vu qu'il n'y a pas de logement, on fait des refuges. On augmente les refuges, Ils sont rendus à 50 000 places à New York, là. On veut-tu s'en aller là? Non. Je pense qu'on a les moyens. Il faut que les paliers de gouvernement pèsent sur l'accélérateur, qu'on se mette à construire, puis qu'on va loger les gens.
Dans le Mainland, la ville a construit, en a construit. Ça a pris des années. C'est dur. On le sait, le zonage décontaminé, etc., l'acceptabilité sociale, c'est pas évident. Puis ça, c'est quoi? Une centaine de logements, peut-être? Là, vous me dites qu'on a besoin de quelques milliers. Où on va construire ça? Comment? Avez-vous une idée de comment on peut peser sur l'accélérateur? C'est une belle image, peser sur l'accélérateur. Mais dans le détail, on fait ça comment?
Tu sais, je regarde ces temps-ci, là, ces dernières années, on a fait à peu près quand même 300 par année des logements
sociaux.
C'est
3 000 sur 10 ans, ça. Vous dites qu'on a besoin des milliers.
Il faut doubler puis tripler la cadence. Il faut simplifier les programmes parce que vous le dites, c'est très long. Quelqu'un qui veut faire du logement social, des fois, c'est entre 4, 5 puis 6 ans avant que son projet aboutisse. Moi, je pense que les gouvernements... Je sais que M. Legault travaille fort. Il y a un nouveau programme de logement abordable. On ne sait pas où ça s'en va, mais la demande est là de simplifier les programmes puis d'accélérer. Encore une fois, dans les autres provinces du Canada, il y a de la création plus rapide de logements. Fait que je pense qu'on est capable, il ne faut pas se décourager, mais c'est sûr que s'il n'y a pas de logement, on a beau avoir des psychiatres dans un refuge, on a beau augmenter le nombre de refuges, on ne mettra pas fin à la grande détresse dans nos rues. Puis c'est ça qu'on veut.
Merci d'être venu nous voir et écoutez, on compte sur vous pour être aux aguets parce qu'il va faire très, très froid cette nuit. Merci. C'était Serge Larrault, commissaire aux personnes en situation d'itinérance à la Ville de Montréal.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.